Donc lundi 3 février, 7h30, les infos du Fénois, le journal, Tamara Sentis, bonjour.
Bonjour Moreto, bonjour à tous. Le congrès des jeunes de l'UPLD qui s'est tenu ce samedi à Faa a rassemblé plus de 600 personnes. L'objet ne portait pas, comme on aurait pu le penser, sur les communales qui approchent, mais sur le processus de décolonisation. Le but de cette journée était d'informer en vue de préparer le futur référendum. Deux Pakumoto viennent d'être placés sous contrôle judiciaire. Il s'agit des ministres autoproclamés des Finances et de la Justice. Ils ont échappé à la détention provisoire et ne rejoignent donc pas leur souverain à Nutania. Et puis des clichés postés sur un réseau social et montrant des oiseaux morts après la diffusion d'insecticides dans le cadre de la lutte antivectorielle sont en train de faire gronder le Fénois. Nous avons recueilli le témoignage de son auteur, vous l'entendrez en fin de journal.
Alors, près de 600 personnes se sont rendues au congrès des jeunes du Tavigny.
Le Parti Bleu s'est rassemblé samedi sur le motu Ovigny à Faa, autour d'Oscar Temaru et de Barak Sopé, chef du parti progressiste mélanésien et ancien premier ministre de la République du Vanuatu. Au programme de la journée, discussions, tables rondes et débats autour de grandes questions concernant le Fénois, mais surtout de la réinscription de la Polynésie française sur la liste onusienne des pays à décoloniser. Même si les élections municipales sont dans quelques semaines, Oscar Temaru prépare déjà le coup d'après, celui du référendum tant espéré sur la décolonisation. Éduquer les jeunes au processus était donc tout l'enjeu de ce congrès. Et c'était l'objectif du leader de l'UPLD qui a rappelé, je cite, « l'importance de sensibiliser le public aux options de l'autodétermination ». Oscar Temaru s'est dit satisfait à la sortie du congrès.
Je suis satisfait, les représentants des cinq archipels étaient là, de toutes les communes. Les jeunes, c'est un congrès spécialement pour les jeunes. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont un peu plus informés, qu'ils vont rentrer chez eux et vont pouvoir, je dirais, promouvoir la bonne parole, hein, pour que ce pays soit très rapidement un pays libre.
Bien que la journée était destinée aux jeunes, des personnes de tous les âges étaient présentes et pour cause, la journée s'est achevée par l'annonce des candidats qui incarneront la couleur bleue pour chaque commune. Jimmy Panier, secrétaire général adjoint du Tavigny Wiratira, fait le point sur les élections municipales.
Sur l'ensemble des communes, le mot d'ordre, effectivement, c'est que le Tavigny Wiratira puisse se positionner. Maintenant, nous avons aussi des partenariats avec d'autres partis qui adhèrent à nos idées et donc avec qui, effectivement, on a trouvé le moyen de, soit de les soutenir, soit c'est eux qui nous soutiennent, ou dans certains cas. Et là où on est assez satisfait, c'est qu'on a réussi à faire en sorte de courir sur une bannière Tavigny, donc on va dire sur 60% des communes.
Et deux Pakumoto ont été placés sous contrôle judiciaire.
Oui, placés tout d'abord en garde à vue depuis vendredi, le procureur et ministre de la Justice Maruarei Colombel et le ministre des Finances Pakumoto ont été placés sous le contrôle judiciaire par le juge d'instruction hier. Ils restent donc sous le contrôle de la justice et ont, à la différence d'Atanas Teiri, de ses deux gardes du corps et d'un autre ministre, évité la détention provisoire. L'enquête se poursuit toujours après le coup de feu contre un policier mercredi dernier, ainsi que la découverte d'armes et de munitions en grande quantité.
Et puis les clichés de Vigny mort agitent la toile.
Et elles ont été partagées des centaines et des centaines de fois. Jérôme et sa femme ont fait cette macabre découverte mercredi après avoir quitté leur farée pendant la pulvérisation de la deltamétrine, l'insecticide utilisé depuis la mi-janvier dans le cadre de la lutte antivectorielle. Ils ont découvert leur Vigny sans vie. Alors simple coïncidence, en tout cas pour ce retraité, cela ne fait aucun doute, l'insecticide est responsable de la mort de ces oiseaux. Interrogé hier soir par Samia Stambouli, il ne décolère pas et reste inquiet.
Mercredi matin, bonne heure, vers 8h comme ça. Et ce matin-là, bon, on était à la maison. Moi et madame, on est partis, quoi. Et en revenant, pendant ce temps-là, ils ont fait la pulvérisation. Et en revenant, on a trouvé des... Tu vois les vignes, les petits oiseaux, là. Il y avait au moins 4 ou 5 qui étaient morts. Bon, après, je les ai tous mis enterrés, quoi, parce que c'était pas la peine de garder, quoi. J'étais un peu choqué, quoi, et fâché, parce que tous ces petits oiseaux-là, ça faisait un moment que je les observais, qu'ils revenaient un peu, ils reprenaient un peu la vie, parce que, à un moment donné, on voyait plus de vignes, ça avait disparu, quoi. Et là, je comprends pas comment ils font ça, et, ben, comme il y a un sacré problème aussi pour les éleveurs de guêpes pour le miel, parce que les guêpes, c'est elles qui font un peu renaître toute la vie, quoi. Et c'est un peu bizarre qu'on introduit ce produit ici, que je pense, moi, qui est dangereux, quoi. Moi, ça m'inquiète, hein. Si jamais à chaque fois on va retrouver des petits oiseaux morts, faut voir plus tard ce qu'ils vont dire encore, hein. Il y a encore des maladies, tout ça. Hein, on essaie de faire du bio, alors s'ils mettent le produit, que ça va être, quoi. Ben oui, ça peut m'inquiéter, ben, ça, pas que moi. Les autres aussi, hein, les autres personnes. On sait pas où ça peut mener tout ça, hein.
Jérôme se dit satisfait de l'emballement de la toile pour ses photos et espère, je cite, que les politiques agiront. Reste que la cause de la mort de ces oiseaux n'a pas encore été élucidée. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Pendant ce temps, les pulvérisations se poursuivent à Moréa. Elles reprendront mercredi à l'est, du PK 11-200 au PK 9.
Et puis direction la Nouvelle-Zélande, qui est de plus en plus plébiscitée par les jeunes polynésiens.
Située à seulement 5 heures d'avion, la Nouvelle-Zélande est la destination phare pour les jeunes polynésiens qui souhaitent améliorer leur niveau d'anglais. À quelques semaines des vacances, parents et enfants s'organisent déjà. Apprendre la langue de Shakespeare en immersion dans une école néo-zélandaise, c'est ce qu'a proposé le Salon de l'Anglais tout le week-end. Et samedi après-midi, les stands d'information n'ont pas des amplis. Sam Mestambouli était au centre Vaima. Reportage.
Cette directrice d'une école néo-zélandaise donne le ton. Ici, ça parle anglais uniquement. Explications, brochures, paysages verts bien connus du pays aux longs nuages blancs. Tout y est pour séduire les parents. À sa table, ce papa venu avec sa fille collégienne de 3e. Ils préparent ensemble les vacances scolaires d'avril prochain.
C'est pour améliorer l'anglais de ma fille quand l'année prochaine elle va au lycée. Donc on espère que, moi j'espère que bon, avec ça, il y a un progrès en plus, quoi. Et d'un côté, c'est pour lui faire profiter aussi des vacances et faire des découvertes. Et les vacances scolaires, bon, en avril ici, je mets bien l'envoyer en avril, au lieu qu'elle soit à la maison sur Internet.
Ben, c'est pour le voyage en Nouvelle-Zélande et puis c'est pour plutôt être indépendant et savoir parler anglais tout seul.
À l'image de ce papa et de sa fille, le profil des visiteurs du salon reste sensiblement le même, comme nous le confirme Christelle Ball, directrice d'Air New Zealand à Tahiti.
Je dirais que les parents et leurs enfants, certains sont venus hier déjà, ont un peu repéré ce qu'ils pouvaient choisir, ont certainement réfléchi à la maison avec tout le monde en famille, un conseil de famille, et beaucoup sont revenus ce matin et encore cet après-midi.
Le salon de l'anglais en est à sa 20e édition, une édition dont le taux de fréquentation reste confidentiel, mais la direction l'affirme, depuis quelques années, la tendance est en nette augmentation.
Les inscriptions pour le prochain EIVA sont en augmentation.
Les inscriptions sont terminées depuis vendredi dernier et la Maison de la Culture a donc fait les comptes et le nombre de participants est en hausse cette année. Pour le EIVA des écoles, 35 établissements vont concourir contre 25 l'an dernier. Quant au concours de danse, 18 troupes s'affronteront alors qu'il n'était que 13 l'an passé. Enfin, le concours de chant comptera 18 groupes cette année contre 15 en 2013. Bayana Géraud est responsable de la communication à la Maison de la Culture. Elle livre quelques pistes d'explication concernant ces augmentations.
C'est une augmentation qui serait difficile d'expliquer en fait. On sait que certains groupes ne se présentent que tous les 2 ou 3 ans, le temps de se remettre d'un EIVA et d'en préparer un autre. C'est le cas par exemple de Tahiti Oja qui avait annoncé qu'il se présenterait plutôt 1 année sur 2. Donc il y a des groupes qui ont leur propre rythme. Et après, on a, comme tous les ans, de nouveaux groupes qui se sont créés et puis d'anciens groupes qui reviennent parce que le EIVA, c'est aussi un peu le cœur de notre culture. Et s'agissant du EIVA des écoles aussi, où le nombre de groupes est très important par rapport à l'année dernière, on avait initié une formule qui permettait de mettre les petites écoles au grand théâtre pour qu'elles n'aient pas à affronter la grande scène de Toata et qu'elles ne pouvaient pas remplir avec le nombre d'élèves. Et c'est une formule qui avait bien marché parce que le public était très proche, il y avait un côté très intime au grand théâtre. Donc peut-être que cette nouvelle formule a incité d'autres écoles à s'inscrire au EIVA des écoles cette année.
Des propos recueillis par Samia Stambouli.